Salut, c'est Steven Jambeau. Vous écoutez la dernière émission de la saison de l'Atelier des médias de RFI. Comme d'habitude, on est ensemble pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous nous écoutez en podcast. Je vous emmène cette semaine au Sahel, en ces temps de pandémie de coronavirus. Tout à l'heure, j'appellerai Monsieur Soro Solo pour qu'il nous parle d'une émission qu'il a présentée et qui a été largement diffusée sur plein de radios de la région. Son titre, Covid-19, c'est quoi même ? Mais avant cela, je vais vous parler de Mondoblog, que l'équipe de l'Atelier des médias porte depuis bientôt 10 ans. Mondoblog, c'est la plus grande communauté de blogueurs francophones au monde. Ils sont près de 800 réunis sur une plateforme qui se veut à la fois média et projet école. Alors quand la crise du coronavirus a éclaté, nous mobiliser tous ensemble pour faire face était une évidence. Des centaines de mondoblogueuses et de mondoblogueurs se sont mis à écrire, à raconter la pandémie vue de chez eux. On sait que certaines régions du monde sont plus vulnérables que d'autres, notamment le Sahel, où les systèmes de santé sont fragiles. Aussi, avec le soutien des ambassades de France au Burkina Faso et au Niger, on a lancé une initiative dans ces deux pays. On l'a appelée Mondoblog, unis contre le Covid-19. 4 blogueurs ont été identifiés, ils sont devenus nos yeux et nos oreilles au Burkina et au Niger dans cette crise aux conséquences multiples. Ils et elles s'appellent Niala, Latif, Madina et Amos, c'est eux que vous allez entendre aujourd'hui.
Salut à toute l'équipe de Mondoblog et de l'Atelier des médias. Je m'appelle Traoré Amos, j'ai 26 ans et j'habite à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso.
Je m'appelle Niala, j'aurai bientôt 27 ans et j'habite à Niamey au Niger.
Je m'appelle Abdellatif Idrissa, j'ai 25 ans et j'habite à Niamey au Niger.
Je m'appelle Madina Soré, j'ai 29 ans et je suis originaire de Burkina Faso.
Direction tout d'abord le Burkina Faso, à Ouagadougou, où Madina Soré s'est lancée dans le blogging durant cette crise.
Sur mon blog, le nom de ma page, c'est Neba. C'est un mot qui a beaucoup de sens en moré, qui est la langue locale la plus parlée chez moi. Donc en moré, Neba signifie les gens peuplent le monde, avec une sémantique très forte derrière. Et c'est ce dont j'essaie justement de parler sur mon blog. Même s'il m'a fallu 4 ans pour m'y mettre, aujourd'hui j'adore y raconter le monde, raconter les gens, leurs histoires et leurs vécus. Et c'est vraiment une belle aventure que je vis actuellement.
Partons maintenant à Niamey, au Niger, où Niala, journaliste de métier, nous explique pourquoi elle a trouvé plus facile de raconter la pandémie sur son blog que dans le média pour lequel elle travaille.
Mon blog sur Mondoblog, c'est Niala, ou sur l'adresse encrepassepartout.mondoblog.org. Et alors, parler du coronavirus à la radio, dans les médias ou en parler sur mon blog. Déjà, je préfère en parler sur mon blog, puisque là, les gens sont en confiance pour vraiment donner leur témoignage, pour raconter comment ils vivent avec cette pandémie. Mais à la radio ou dans d'autres médias, c'est toujours difficile puisque les gens ont cette peur-là. Les gens ne veulent pas qu'on reconnaisse leur voix, les gens ne veulent pas s'exposer en vidéo. C'est toujours difficile de parler du coronavirus dans certains secteurs comme la santé et pas peur de représailles, bien sûr. Je me rappelle, j'avais voulu écrire un article et pour raconter comment le coronavirus a impacté la vie des professionnels de la santé, en l'occurrence les infirmiers. Alors j'ai approché 3 ou 4 infirmiers, mais ils étaient réticents. Ils avaient peur de représailles. Ils ne voulaient pas s'exposer. Et puisque au début de cette pandémie, il y avait un docteur vétérinaire qui s'est exprimé sur le sujet, qui a un peu expliqué l'origine animale du virus et aussi qui a déclaré que le coronavirus ne résisterait pas à plus de 20 degrés. Et ce qui malheureusement n'était pas le cas, puisque voilà, le coronavirus a frappé le Niger de plein fouet, si je peux le dire comme ça.
Ces temps de pandémie sont propices à la diffusion de rumeurs, de fausses informations contre lesquelles les mondoblogueurs de RFI se sont mobilisés en lançant Askip pour toutes ces phrases qui commencent par « à ce qu'il paraît » et qui sont souvent douteuses. Écoutez Amos Traoré de Bobo-Dioulasso au Burkina.
Pendant cette crise sanitaire, il y avait de nombreuses fake news sur Internet. C'est fou de savoir comment un climat de psychose peut engendrer toute une multitude de désinfox, aussi loufoques les unes que les autres. Avec le concept Askip, Je ciblais ces fake news pour ensuite distiller la vraie information en me basant sur des sources de référence très fiables. Ce qui était intéressant, c'est que ce sont mes proches qui me rapportaient le plus souvent les fake news. Avec le COVID-19, les membres de mon entourage se sont beaucoup informés sur les réseaux sociaux et malheureusement, ils se sont fait piéger à plusieurs reprises. Les fake news ont la peau dure et grâce au format ASKIP, j'ai pu ainsi répertorier un certain nombre de fake news pour sensibiliser mon entourage et les internautes. Ansoma, Asomoro, bonjour, comment vous allez? Vous portez bien, j'espère. Alors aujourd'hui, il faut que je vous raconte une histoire de ASKIP. Ces histoires commencent par « à ce qu'il paraît ». Déjà, tu sais qu'elles sont gâtées. Comme chaque matin, je me suis rendu chez le boutiquier du quartier. Je voulais acheter une baguette de pain. Il y avait un toy-boy devant la porte. Lui, le boutiquier, et m'a dit une connaissance, était en train de s'échanger des mots vifs. Alors, très vifs. M'a dit le jeune refusait de porter un masque et de se laver les mains avant de rentrer faire ses achats sur lui, le boutiquier. Lui disait qu'il ne voulait prendre aucun risque afin que sa boutique ne devienne pas un foyer infectieux du coronavirus. Ah, il y avait affaire, ces deux-là n'arrivaient pas à s'attendre. Madi, irrité, qui est par ailleurs un grand gaillard, costaud, me dit ceci. Mon frère, cette affaire de COVID-19 là, wallahi, ça commence à trop m'énerver. Je vais juste acheter des bonbons pour mon petit frère et il me demande de porter un masque. Ah, tout ça, ce sont des foutaises. D'ailleurs même, hier j'ai vu sur Facebook que les scientifiques ont affirmé que les Africains étaient protégés naturellement contre le coronavirus. Madi, trop beau pour être honnête. Je lui ai demandé d'où venait cette info peu crédible. Hey Amos, y'a quoi? Je sais pas. J'ai vu ça hier sur un site internet pour me laisser tranquille. Je lui demande alors le nom du site, mais il ne s'en souvient pas. Ah, m'a dit, toi tu vas me tuer, c'est pas la peine. Je lui ai proposé qu'il m'attende chez lui, que j'allais vérifier l'information et que je reviendrai pour lui dire.
Toujours au Burkina, Madina Soré a elle aussi fait la chasse aux infox.
Ces dernières semaines, j'ai essentiellement fait des billets sur la crise du coronavirus au Burkina Faso. Donc, il s'agissait de parler de la manière dont les Burkinabés ont vécu l'arrivée de la maladie, de parler de l'impact de certaines mesures barrières qui ont été prises pour limiter la propagation de la maladie, mais surtout d'arriver à déconstruire certaines fausses informations qui circulaient beaucoup sur les réseaux sociaux. Par exemple, arriver à retenir sa respiration plus de 10 secondes permet de savoir si on est contaminé ou pas. Boire régulièrement de l'eau chaude permet de nous protéger de la maladie. Le coronavirus ne fait absolument rien aux personnes les plus jeunes, etc. Voilà, donc il s'agissait d'arriver à déconstruire ces fausses informations qui circulaient. Je pense que j'ai surtout appris à me méfier des informations que je voyais circuler dans mon fil d'actualité, à ne pas automatiquement les partager, mais à les questionner pour m'assurer de leur véracité et ne pas moi-même contribuer à propager des fausses informations sur les réseaux sociaux.
Et oui, tordre le cou aux infox, cela commence aussi par ne pas les partager. Nos blogueurs ont donc pu développer leur esprit critique, mais ils ont également fait des rencontres importantes en travaillant sur la crise du coronavirus. Écoutez dans l'ordre Latif, Madina, Niala et Amos.
Dans le cadre de ce projet, j'ai eu affaire à de très belles rencontres. Des rencontres qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Des rencontres qui, si ce n'est dans le cadre de ce projet, je n'aurais pas pu le faire. Alors, comme rencontre marquante, je citerai la rencontre avec le cinéaste Serge Clément. La rencontre avec l'artiste musicien, l'artiste rappeur Hakim et King aussi m'ont beaucoup marqué. Et je citerai aussi peut-être une probable rencontre avec ma manne humoriste qui déjà m'a donné le badge de super fan sur sa page Facebook. Donc je crois que j'ai eu à faire de très belles rencontres que je ne suis pas prêt d'oublier maintenant dans le cadre du projet de Mondoblog Uni contre le Covid au Sahel.
Dans mes billets, j'essaie de faire parler ma famille, mes amis, mon entourage. J'essaie de comprendre certaines situations qu'ils ont vécues au plus fort de la crise. Et je pense que nous avons vécu de vrais moments de partage, de très belles discussions qui nous ont permis de mieux nous connaître.
même si ça n'a pas toujours été facile pour moi, parce que parfois j'ai dû aller vers des inconnus pour leur poser des questions, discuter avec eux, et c'était pas évident pour moi, mais j'ai quand même réussi à surmonter cette crainte. Je me suis rendu compte que les gens sont plutôt ouverts, plutôt prêts à répondre aux questions et surtout à donner leur avis sur ce qui se passait dans le pays. Voilà, donc j'ai vraiment eu de beaux moments avec certaines de ces personnes-là, même s'ils n'étaient pas toujours très emballés par la petite séance photo qui venait après.
Ce que j'ai pu retenir de cette expérience de blogging, c'est que du positif. J'ai eu à rencontrer des personnes merveilleuses qui n'ont pas hésité à témoigner, à me raconter comment ils vivent avec ce virus. Je me rappelle du docteur Gibault, un médecin généraliste, qui n'a pas hésité à me raconter comment, quelles actions ils ont menées, parce qu'il fait partie de l'association des jeunes médecins du Niger, les actions qu'ils ont menées dans la gestion, dans la prévention et tout ceci. Voilà, je me rappelle aussi de Monique, cette jeune femme entrepreneure qui confectionne des masques de protection. Elle était vraiment fière. Elle a partagé l'article là partout sur sa page Facebook, Twitter. Et je suis vraiment fière. Je me rappelle aussi du taximan Omar. Omar, lui, quand je l'ai approché, il était vraiment ému que je puisse m'intéresser à sa situation. Parce qu'avec le coronavirus, il a perdu en recette journalière. Les gens ne sortaient plus, les gens restaient à la maison, les gens se confinaient. Donc, il a perdu gros dans cette affaire du coronavirus. Donc, je ne peux être que fière. Et je suis fière de rejoindre cette famille de mondo-blogueurs.
Et deux articles que j'ai particulièrement aimé écrire, qui me tenaient vraiment à cœur, c'était sur le paludisme et le terrorisme, et comment ils étaient, disons, relégués au second plan, surtout depuis l'arrivée de la maladie. Il y a eu plein d'actions qui ont été menées au niveau gouvernemental, au niveau des particuliers, pour aider à limiter la propagation de la maladie. Un engouement qu'on n'a jamais vu pour ces deux fléaux également, qui font beaucoup, beaucoup de victimes dans mon pays.
Vraiment, j'ai beaucoup appris avec ce projet-là. C'est grâce à ce projet aujourd'hui que on m'appelle partout Latif le blogueur, Latif le blogueur. Donc, je suis vraiment fier. Surtout, j'ai remarqué depuis que je participe à ce projet que sur mes différents réseaux sociaux, mon audience a un peu plus augmenté. Donc, c'est quelque chose qui me rend encore plus fier. Donc, je suis vraiment fier d'avoir participé à ce projet. Merci vraiment à Mondoblog. Je crois que nous avons contribué d'une manière ou d'une autre à lutter contre le Covid-19 au Niger.
Il faut dire que le Covid-19 a eu un lourd impact sur tous les secteurs d'activité au Burkina Faso. Il fut un moment où l'on craignait vraiment le pire. Il faut savoir que le Burkina n'était en aucun cas préparé à faire face à une crise sanitaire d'une telle ampleur. Le système sanitaire, qui était déjà très fragile, fut mis à rude épreuve avec l'arrivée du coronavirus. La pandémie a mis à nu toutes les insuffisances de notre système sanitaire. On peut parler du manque d'équipements biomédicaux, personnel soignant pris au dépourvu, qui a dû mener la riposte avec des moyens très très insuffisants. Il est même ressorti dans certains canaux médiatiques que, faute de matériel adéquat, de nombreux médecins et infirmiers ont pris en charge des malades du Covid-19 sans équipement de protection. C'est donc dit que le système sanitaire a beaucoup souffert et continue de souffrir. La maladie à coronavirus a aussi mis en évidence la question très importante de l'accès à l'eau potable. Je pense que les Burkinabés ne sont pas prêts d'oublier de sitôt les multiples coupures d'eau pendant cette crise sanitaire. Le chef de l'État, M. Roch Macky Sall Kaboré, avait annoncé une série de mesures sociales le 2 avril dernier pour accompagner le peuple dans la lutte contre le Covid-19. Il y avait entre autres la baisse du montant des factures d'eau et même la gratuité pour certaines couches sociales. Avec l'annonce de cette mesure, le phénomène de surconsommation est très vite apparu. La structure qui est chargée de s'occuper de la distribution d'eau n'arrivait plus à satisfaire la demande. Là encore, on fut dépassé par la situation. Bon, c'est quand même assez paradoxal. L'eau qui est si importante pour le lavage des mains manque cruellement. Dans le secteur de l'agriculture, le COVID-19 a apporté son lot d'imprévus et de désagréments pour de nombreux agriculteurs, notamment en ce qui concerne l'exportation des denrées. Avec la fermeture des frontières et les différentes mesures de quarantaine, les agriculteurs n'avaient plus la possibilité de faire écouler leurs produits. Le circuit de distribution était bloqué. Les conséquences ne se sont pas fait attendre. Faute d'un système de stockage adéquat, de nombreuses denrées ont pourri, laissant les agriculteurs dans le désarroi avec des pertes énormes. En somme, les sujets que j'ai choisi de traiter reflètent mon quotidien et celui de mes concitoyens pendant cette période de crise sanitaire. Quel est l'impact de la maladie dans la vie de tous les jours? Comment le COVID-19 a bouleversé l'ensemble du système, les appréhensions et les difficultés auxquelles les habitants font face? Et quelles sont les stratégies de résilience que ces mêmes populations ont adoptées? Voilà ce qui a constitué les fondements de mes écrits. J'ai aussi rencontré des personnes inspirantes qui, par leur initiative, leur capacité d'adaptation, montrent que, quelles que soient les difficultés auxquelles l'on fait face, si l'on est solidaire et discipliné, on peut transformer des problèmes en opportunités. J'ai appris que même en étant modeste, on peut faire partie des meilleurs. Cette crise doit servir de leçon à notre société. Nous devons revoir beaucoup de choses, surtout notre rapport avec la nature. Cette nature qui ne cesse de nous envoyer des signaux d'alerte que nous faisons d'ignorer. Nos dirigeants doivent arrêter d'investir dans des choses inutiles et se focaliser sur les secteurs qui sont indispensables à notre survie. Le projet Mondoblog uni contre le COVID-19 m'a donné l'opportunité de faire porter un message au monde entier pour dire que c'est tous ensemble que l'on viendra à bout du COVID-19.
Un grand bravo aux quatre blogueurs que vous venez d'entendre pour leur production de ces dernières semaines. Je tire mon chapeau à Raphaël Constant qui les a accompagnés au quotidien depuis Paris. Bravo aussi à Simon de Creuse et Camille Deloche qui ont eux aussi consacré du temps et de l'énergie à cette aventure. J'en profite pour saluer Colin Gruel et Louise Guibert qui échangent quotidiennement avec les centaines de mondoblogueurs et de mondoblogueuses, relisent leurs articles, leur font des retours et partagent le meilleur de cette production sur les réseaux sociaux.
Croyez-moi les gars, Covid là, on va le lutter grave jusqu'à il va nous foutre la paix.
Covid-19 ? Aïe ! C'est quoi même ?
Covid-19, c'est quoi même ? Ben, c'est la place où on cause exclusivement de ce qui préoccupe la planète aujourd'hui. Le Covid-19.
Covid quoi ? 19 ? Ça saute aussi.
Bonjour, moi c'est Soro Solo. Cette première rencontre avec vous, chers auditeurs, sera suivie de plusieurs autres. L'objectif clair et net, partager avec vous tout ce qui se dit en Afrique et dans le monde sur la pandémie. Et croyez-moi, on va papoter de tout ça sans larmoyer, sans se surcharger la tête et même user parfois d'humour pour dédramatiser le débat.
On vient d'écouter un extrait de Covid-19, c'est quoi même ? Une émission présentée par un ami de Mondoblog et de l'atelier des médias de RFI. J'ai nommé Soro Solo et j'ai de la chance parce qu'il est en ligne avec moi aujourd'hui. Salut Soro, comment ça va ?
Salut Steven.
Ton déconfinement se passe-t-il bien ?
Oui, plutôt bien. Je crois que c'est le cas de dire parfois quelque chose de malheur est bon. Moi, j'ai pas manqué de boulot en radio, boulot en création de spectacles, boulot en création de projets divers et variés. Donc, je dirais, ça se passe très bien.
Alors, si je t'appelle aujourd'hui, c'est pour parler de cette émission que tu as présentée ces derniers mois, Covid-19, c'est quoi même ? Peux-tu nous présenter le concept en quelques mots ?
Le titre de l'émission, c'est une question. Covid-19, c'est quoi même ? C'est-à-dire, on veut savoir de quoi s'agit-il. Et ce magazine, c'est pour parler de la pandémie de la COVID-19, mais du point de vue des Africains. Que ce soit des Africains qui parlent de cette pandémie, de ce qu'elle a comme difficulté, de ce qu'on fait comme recherche en médical, en virologie, en épidémiologie, qu'est-ce qu'on en santé publique, quelles sont les pistes qu'on trouve en Afrique, quelles pistes les Africains eux-mêmes sont. Voilà, globalement, le concept de cette émission. Comment parler de façon anti-anxiogène d'une pandémie, d'un drame qui a gagné le monde entier et qui se retrouve aussi en Afrique ?
Et c'est un joyeux et savant mélange d'entretien, mais aussi de contes. L'émission a été multidiffusée en français par 15 radios dans 6 pays du Sahel, mais elle a également été adaptée dans une quinzaine de langues locales. Pourquoi c'est important ?
L'émission est diffusée effectivement dans une zone géographique qui couvre les 6 pays du Sahel. Et si on l'a déclinée en plusieurs langues, ça répond à un besoin pratique et pragmatique. Sur le continent africain, malgré la grande scolarisation qui est à l'occidental, qui est arrivée avec la colonisation, mais il reste encore un grand nombre de citoyens africains qui ne lisent pas, n'écrivent pas le français et qui ne s'expriment que dans leur langue maternelle. Et si on veut communiquer sur une information aussi importante et toucher le plus grand nombre, il était important de sélectionner quelques grands courants de langue pour traduire cette émission afin qu'on touche le plus grand nombre des auditeurs. C'est ainsi que je cite au hasard, je n'aurai pas toutes les langues en tête, mais je cite au hasard le Fulfulbe, c'est-à-dire le Peul, l'arabe mauritanien, l'arabe tchadien, le Bambara, qui est une des grandes langues de communication de toute l'Afrique subsaharienne occidentale. Et voilà. Donc, c'est vraiment le besoin de toucher le plus grand nombre que cette émission a été déclinée en plusieurs langues dans les 6 pays du Sahel.
Là, on commence à avoir un petit peu de recul. Que retiens-tu de l'impact de la pandémie au Sahel et de la façon dont à la fois les gouvernements, mais aussi les gens ont réagi?
Ce que je retiens, ça a d'abord été la réactivité des gouvernements africains. Contrairement à certaines puissances occidentales qui ont négligé, je pense notamment aux États-Unis, où on a pensé, ouais, ça n'allait jamais nous toucher. Bref, donc il y a une réactivité des régimes africains, mais c'est surtout ceux de l'Afrique occidentale qui ont quand même l'expérience du virus Ebola, qui était également une épidémie d'une grande dimension. Et l'impact de cette pandémie dans nos pays africains en général et dans la région sahélienne en particulier, c'est à la fois social, sanitaire et économique. Vous savez, dans nos pays, une grande partie de la production économique relève du secteur qu'on appelle le secteur de l'informel. Et quand on demande à toute une population d'être confinée chez elle, rester, ne pas sortir sur la place publique, la maman qui vend ses beignets sur le trottoir pour nourrir ses 5 enfants ou ses 10 enfants pour subvenir à leurs différents besoins, elle ne peut plus le faire. Donc elle est impactée à 100%. Les acteurs de cette économie n'ont pas accès au crédit bancaire. Les entreprises privées ou les entreprises publiques qui ont pignon sur rue peuvent solliciter un crédit bancaire pour s'en sortir en attendant de trouver une solution au problème de la pandémie. Mais le vendeur au marché, la vendeuse sur le trottoir, le mécanicien qui répare ses vélos sur le trottoir, qui gagne son pain par ses métiers artisanaux, il est coincé à 100%. Voici, de mon point de vue, enfin, le constat général, l'impact économique sur une grande partie de la population. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter face à cette catastrophe de la pandémie COVID-19? C'est tarauder nos régimes, nos gouvernants, pour qu'ils repensent toutes les questions de production nationale, toutes les questions de la santé publique et toutes les questions de l'économie africaine. Comptez sur nous-mêmes avant d'attendre que le monde vienne nous assister. On commence à réfléchir comment transformer sur place nos besoins, nos biens de consommation, produire ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons, comme le disait feu Thomas Sankara.
Toi, Soro, tu es également spécialisé dans la musique. Est-ce que cette période a été propice à la création musicale sur le continent?
Eh bien, c'est une grosse source d'inspiration. Je pense même qu'il y a un journal bien célèbre en France qui s'appelle Le Monde et qui a son pendant Monde Afrique, a carrément dédié un article complet pour voir comment les artistes sur l'ensemble du continent ont pris à bras le corps la question de la pandémie du coronavirus. Mais ça répond à une tradition culturelle. La grande majorité ne lit pas, où une bonne partie des populations ne lisent pas, n'écrivent pas en français. Nous sommes dans l'espace culturel de l'oralité. Et tout ce qui est dit, traité de façon orale, a la plus d'impact que l'écrit ou le filmé. Donc, les artistes ont compris qu'il fallait, pour la vulgarisation des gestes barrières, pour la vulgarisation de l'information, pour déconstruire les superstitions ou ceux qui prétendent que c'est une sanction divine, ils ont compris qu'il fallait, par la musique, par la création musicale, s'adresser à tous ces publics pour faire comprendre l'importance et la gravité de cette pandémie. Donc on a assisté à nos énormes productions, les plus petits, les moyens, les gros. Je veux dire, je pense à une célébrité comme Youssou N'Dour, à quelqu'un comme Tiken Jaffa Coli, ou à des nouveaux venus qui sont arrivés comme Rambo Junior. Et tout le monde s'est jeté dans la bataille musicale pour lutter contre la pandémie de la Covid-19.
Merci, Soro Solo.
Au plaisir, au revoir.
Et c'est avec toi que se termine ce dernier atelier des médias de la saison. Dans les semaines qui viennent, ce sont des rediffusions choisies avec soin que vous entendrez sur les ondes de RFI. Je remercie vivement Simon de Creuse. Vous ne l'entendez pas, mais c'est lui qui réalise avec brio chaque semaine cette émission, et ce, depuis ses débuts. Si vous aimez l'atelier des médias de RFI, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Podcast Addict, Spotify, Google Podcast ou encore Apple Podcast. Je m'appelle Steven Jambeau et j'aurai le plaisir de vous retrouver tout début septembre pour une nouvelle saison de l'Atelier des médias.